Divergence FM, l'interview.
Entretien un petit peu particulier aujourd'hui, puisqu'il s'agit en fait d'extraits de la conférence de presse qu'a donnée Philippe Jaroussky, haute compte célébrissime, qui passe à la direction d'orchestre et qui vient de démarrer pour 3 années une résidence avec l'orchestre de Montpellier. Cela à la veille d'une première production avec un opéra Radamisto de Handel qui sera donné ce lundi 4 octobre à l'Opéra Berlioz à 19h. Premiers extraits du chanteur au chef et l'opportunité de cette résidence Montpellier-Rennes.
C'est un outil pour moi extraordinaire que j'ai jamais eu à disposition. Alors évidemment, je commence la direction, mais ça fait plus de 15 ans que j'ai mon ensemble. Mais c'est vrai que le fait d'être appuyé par une maison d'opéra, c'est un luxe très rare, je dirais. Mm-hmm. En plus, sur plusieurs années, ça permet justement aussi de construire la résidence en construisant des projets différents, en essayant de voir ce qu'on peut faire pour compléter chaque année. Diversifié.
Mon rêve, c'est quand même de le voir au bout de la résidence diriger l'orchestre quand même.
Elle veut essayer de me convaincre.
Si doit continuer à commencer avec un orchestre moderne, oui. Que ce soit chez nous.
Et c'est vrai que, voilà, donc pour l'instant, c'est vrai que moi, l'idée est de plutôt diriger la musique baroque, celle que je connais le mieux. Je pense que l'idée de diriger, elle vient aussi beaucoup de ma curiosité sur les répertoires. C'est-à-dire que j'ai fait tellement de disques où je prenais des petites pépites dans une œuvre et puis je l'enregistrais. L'idée est venue, au bout d'un moment, de diriger toute une pièce aussi pour pouvoir la faire découvrir en entier et pas juste un air extrait dans un disque. Et puis, moi, mentalement, pour l'instant, je m'imagine peut-être, si tout va bien, jusqu'à Mozart, peut-être.
J'ai entendu.
Qui serait un rêve, parce que ça comblerait aussi une grande frustration de chanteur, puisque j'ai pas pu chanter beaucoup Mozart. Donc le diriger, ça serait finalement un rêve. Et puis le lien entre la musique baroque et Mozart, il est quand même de plus en plus même évident par rapport aux interprétations actuelles d'ailleurs. Et voilà. Mais c'est vrai que ça a été une grande... grâce à Valérie et toute l'équipe de l'opéra, on a réussi à sauver ma première prod de chef, comme on dit. C'est Oratorio de Scarlatti, en pleine pandémie.
C'était génial.
Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai dû diriger cette œuvre à Salzbourg quelques mois après. Et sans cette expérience à l'Opéra de Montpellier, avec la vidéo qu'on a tournée pour Mezzo,
magnifique.
J'aurais été un peu perdu, je pense. Voilà, donc ça a été une révélation. Les gens se disent, mais peut-être pourquoi effectivement Philippe, d'un coup, il pense à diriger alors qu'il chante. Est-ce que c'est pas une lubie en fait? J'ai l'impression que ça peut même paraître un peu provocateur de dire ça, mais je pense que je me sens peut-être depuis le début plus chef que chanteur. Chanteur est toujours un passage de ma vie de musicien, mais. J'ai toujours aimé travailler avec des musiciens, trouver des idées, oui. Et quelque part, c'est peut-être cette reconversion, je l'espère en tout cas, parce que c'est pas gagné, faut jamais. Mais en tout cas, c'est peut-être la révélation de ce que je peux peut-être essayer de concrétiser le mieux finalement dans ma carrière de musicien. Ça peut paraître bizarre de dire ça, et de dire qu'en tant que chanteur, j'ai peut-être pas concrétisé tout ce que je voulais. J'ai l'impression que j'aurais la possibilité de concrétiser plus de rêves en tant que chef qu'en tant que chanteur, finalement, paradoxalement.
L'évolution des goûts et le rôle du chef et la mission d'une maison d'opéra.
Avant, je peux même dire qu'il y a 15 ans, j'enregistrais n'importe quoi, ça se vendait. Maintenant, il faut raconter une histoire aux gens. Et il faut peut-être aussi choisir les pièces qu'on propose, qu'elles puissent résonner avec le public d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs en deuxième opéra, c'est Orphée, on peut le dire, de Sartorio,
ouais, tu peux y aller.
Qui est un compositeur extrêmement peu connu, mais qui est une œuvre absolument magnifique. Mais je ne l'ai pas choisi que pour ça, je me suis dit, Orphée, ça parle aux gens, c'est vraiment une histoire qui peut parler à tout le monde. Voilà, que c'est cet Orphée qui va rechercher. Sa belle aux enfers, il y a quelque chose d'universel. Tout le monde connaît déjà l'histoire en rentrant dans le théâtre. Et ça, je trouve ça intéressant de jouer avec ça. Et voilà, donc en tant que chef aussi, c'est ça. C'est peut-être trouver des pièces qui peuvent parler au public d'aujourd'hui, même si elles ne sont pas connues. Donc ça peut être par l'histoire, ça peut être par l'écriture elle-même musicale, ça peut être par la durée aussi. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une époque où il y a un certain public qui n'a pas envie de rester 4 heures à l'opéra. Il y en a, oui, il y en a même qui voudraient rester 6 heures. Mais il y a peut-être aussi peut-être des pièces à trouver qui sont efficaces, qui parlent au public d'aujourd'hui. Alors, parler au public d'aujourd'hui, c'est aussi le travail du metteur en scène. C'est-à-dire à travers la mise en scène qu'il propose, faire des références à ce qu'on vit actuellement, une contemporanéité. Donc voilà, c'est là aussi où c'est intéressant que le chef et le metteur en scène se choisissent par l'intermédiaire d'une maison d'opéra, par exemple, pour entrer en contact. Par exemple, Valérie peut très bien... Par exemple, Valérie peut très bien me dire, voilà, j'ai fait une production avec un metteur en scène que j'adore, est-ce que tu veux pas travailler avec lui ou... Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que le rôle du chef, c'est peut-être avoir l'idée de se dire quelle pièce peut toucher le public d'aujourd'hui. Ça, c'est la vraie question, encore plus dans le baroque, je crois. Mais dans beaucoup de répertoires, même le répertoire contemporain. Ouais. Mais voilà, et c'est aussi le rôle d'un chef et le rôle d'une maison d'opéra de prendre des risques.
La prochaine production de Radamisto, de Handel, avec Marie-Nicole Lemieux.
Mon histoire avec Radamisto, elle remonte déjà un petit bout de temps, puisque dans l'album Handel, qui a déjà presque 5 ou 6 ans, j'ai enregistré 3 airs du personnage, et dont un de mes préférés, qui est le Ombra Cara, avec le basson. Et ça, c'est un air qui est très particulier dans l'œuvre de Handel. Il faut savoir que Handel lui-même considère que c'est un de ses 2 plus beaux airs. Il en était très fier parce qu'il y a des contrepoints un peu chromatiques. Donc je pense qu'il a voulu faire un peu du bac. Je pensais que là, il avait atteint le... Et c'est un air absolument sublime. Et ce qui m'a attiré, c'est que c'est un air qui a été écrit non pas pour un castrat, mais pour la doula Stanti, qui avait créé le rôle de Sesto dans Jules César. Et c'est un rôle très mezzo. Malheureusement pour moi, il y a encore 10 ans, je m'imaginais aborder des grands rôles d'alto sur scène, en pensant que ma voix descendrait dans le grave. Elle a gagné en largeur dans le médium, mais il faut que j'utilise cette tessiture pour qu'elle sonne de manière épanouie. Si je suis trop tassé dans le grave, je ne sonne plus. Donc, Radamisto était... Voilà. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est encore un peu un anti-héros. J'aime bien défendre ces personnages-là. C'est un personnage qui... voilà. On va dire que l'homme de l'histoire, c'est Zenobia. Donc, c'est Marie-Nicole. Dans le coup, qui est une femme de tempérament extrêmement. Moi, je suis toujours un peu dépressif, j'ai envie de me suicider toutes les 5 minutes. Et ce qui est très beau, c'est que le rôle se termine d'ailleurs curieusement par cet air que j'adore aussi, qui est Quel Naves Marita, qui est une espèce de Lacha Kiopianga.
Ah ouais.
Et le rôle se termine pas de façon du tout triomphale, justement. Il se vient avec un air comme ça, très incertain, où il dit. Il compare sa vie à un bateau dans la tempête qui voit au loin un phare mais qui ne sait pas trop s'il va arriver à bon port. Donc j'aime bien et je pense que ça correspond mieux à ma personnalité que des Orlando ou des choses comme ça. Donc j'ai choisi aussi un peu ce rôle en fonction effectivement du matériel musical qu'il y avait dedans. Et puis j'ai tout de suite pensé à Marie-Nicole pour Zenobia. Et j'étais convaincu en lisant la partition que c'était un des grands rôles endeliens qu'elle pouvait aborder. Je pense qu'elle, je dirais pas qu'elle a dit oui pour me faire plaisir, mais on connaît évidemment le développement de son répertoire de Verdi
à Wagner.
Et j'étais persuadé que c'était bien aussi qu'elle retourne à ses personnages, parce qu'évidemment Marie-Nicole c'est une grande diseuse. Ouais. Donc quand son personnage est tiraillé par 1000 douleurs, voilà, elle le vit. Quand le personnage est joyeux, elle le vit, voilà. Et hier, c'était amusant de la voir parce qu'elle se trompait de mots, mais elle en mettait d'autres qui étaient les bons par rapport à ce qu'elle ressentait.
Ouais.
Et ça, je trouve c'est assez incroyable. Elle a un instinct dramatique fort. J'espère retravailler avec elle d'ailleurs comme chef. Pourquoi pas un jour un rôle que j'entends tellement dans sa voix, parce que j'ai déjà entendu des extraits, c'est Pénélope dans Le Retour d'Ulysse de Monteverdi. elle serait incroyable là-dedans. Et voilà, j'aimerais bien un jour la diriger.